France Culture. Chaque jour, les choses vont de mal en pis, comme on peut voir avec le canal de Rialto et San Marco, qui sont particulièrement ensablés.
Qu'est-ce que vous attendez ?
La barque, parce qu'il y a un problème avec la hauteur des ponts. Avec la marée haute, la barque n'arrive pas à passer sous le pont. Nous avons deux points d'amarrage possibles. Alors, dans ce cas-là, la barque s'arrête avant le pont. Ça se joue à quelques centimètres pour pouvoir passer dessous. Il y a deux zones.
Là, fa parte di Castello.
Là, c'est Castello et ici, c'est Saint-Marc.
Sua barca, noi abbiamo... Sono due rive differenti, lavorano... Un'altra squadra di là.
Chacun a sa barque, ce sont deux rives différentes avec une autre équipe de l'autre côté.
À la vue de tous, tout le monde jette les immondices et les gravats dans l'eau. De même que les bateliers qui transportent le bois et les pierres y jettent les déchets. Marco Cornaro, patricien de Venise au 15e siècle.
Ognuno getta le scovase e ruinasi in acqua.
Ciel, les déchets, une série documentaire d'Élise Gruot, réalisée par Franck Lilla.
Così, quelli dalle burchi, da legne, getta le scovase dei dicti e quelli che mena le pierre.
Épisode 1. Venise, ici commence la mer, ne rien jeter.
Siamo in Piazza San Marco a Venezia, ovviamente.
Nous sommes place Saint-Marc à Venise, bien sûr.
E la pulizia di tutta Venezia, in particolare appunto della piazza, va.
La ville est entièrement nettoyée chaque jour. Tous les matins de 6h à 8h, on balaye la place Saint-Marc.
E tipo la piazza è suddivisa in zone. Ogni persona ha la sua zona, viene fatta, fanno i mucchi.
Chaque balayeur s'occupe d'une zone. Il la balaie, il forme des tas avec les ordures, puis il ramasse les tas, soit dans un grand chariot, soit dans une poubelle à roulettes qui est plus facile à manœuvrer.
Venezia, essendo una città unica e tutta pedonale, ovviamente si sporca.
Venise est une ville unique. Comme elle est entièrement piétonne, elle se salit beaucoup et nous avons le devoir de la rendre propre chaque jour. Dans ses moindres recoins, chaque place, chaque ruelle et évidemment la place Saint-Marc.
E le difficoltà maggiori è quando c'è l'acqua alta.
Ce qui nous pose le plus de difficultés, c'est quand la ville est inondée avec l'acqua alta.
La spécificité de l'écosystème vénitien, le fait que la ville soit placée au milieu d'une lagune, a fait que très tôt, les gouvernants, mais aussi les communautés d'habitants, ont dû s'intéresser à ces conditions naturelles, avec des guillemets, mais de leur vie dans la lagune. Cette attention à l'écosystème, cette attention aux interactions entre les hommes et leur milieu était très précoce à Venise et mérite qu'on en fasse l'histoire. Et de ce point de vue-là, c'est aussi une façon d'éclairer nos conditions actuelles, en particulier de réfléchir à la façon dont les communautés d'habitants réussissent à absorber les déchets qu'elles produisent.
E finito lo spazzamento dalle 8 in poi.
Une fois le balayage terminé, à 8 heures, on commence le ramassage des poubelles. À Venise, on le fait à pied, en porte-à-porte. Les agents sonnent aux interphones, on leur ouvre et ils emportent les poubelles.
Basta che io non guardo tanto sto gossip, vedo da Instagram, ma non capisco.
Hai ragione, tanto hai già un po' di informazione.
Ma la ganca infama va via.
De tout temps, il y eut des restes, des résidus, des traces laissées par tout être vivant qui mange pour vivre, et qui lui-même, en finissant de vivre, devient un reste dans le grand cycle du vivant. Mais ces restes, étaient-ce pour autant des déchets, tels que nous les pratiquons aujourd'hui, ce que nous apprenons à jeter, trier, gérer, pour le mieux ou pour le moins mal. Mais était-il d'une nature vraiment semblable à ceux qui aujourd'hui nous encombrent, ces quantités monstrueuses qui, en quelques décennies, ont envahi les milieux de vie sur la planète, marquant tous les paysages et les écosystèmes. De l'épluchure aux poussières, des excréments aux gravats, des plastiques à leur fragmentation en micro et nanoparticules, dans cette série, nous nous demandons ce que les déchets disent des sociétés, quels sont nos usages de la matière et comment prendre soin de nos restes. Et nous commençons notre chemin à Venise, car comme tout mythe, Venise contient tout, l'intime et le global. Et comme tout mythe, entre passé et présent dans le choc des discontinuités, elle est une pionnière de cette nécessité de tenir compte de tout l'écosystème pour penser l'organisation des sociétés. Claire Jude de La Rivière, professeure d'histoire médiévale, historienne de Venise et de la Lagune, arpente la ville depuis 25 ans et fouille dans les archives des gouvernements à la recherche des indices de la vie quotidienne au Moyen-Âge. Avec elle, nous explorons comment une ville comme Venise, au Moyen-Âge et aujourd'hui, fait face à ses déchets.
Mes recherches portent sur le peuple de Venise. Mon sujet de prédilection depuis des années, c'est de m'intéresser aux gens ordinaires qui habitaient la ville, les hommes et les femmes qui ont peuplé cette ville durant tout le Moyen-Âge et qui ont fait de la ville ce qu'elle était. C'est-à-dire de regarder au-delà des splendeurs de Venise, au-delà des nobles, des artistes, des musiciens qui ont fait la réputation de la ville, pour voir toute cette vie ordinaire, et en particulier les artisans, les ouvriers, et encore une fois les hommes comme les femmes, qui ont fait la ville. Donc en travaillant sur leurs pratiques quotidiennes, je me suis intéressée beaucoup à leurs pratiques politiques, à leurs pratiques politiques ordinaires, et concrètement, j'ai vu qu'une des façons qu'avaient ces habitants ordinaires d'interagir avec les gouvernants, c'était aussi dans leur relation à la lagune. Par exemple, les pêcheurs, qui sont souvent sollicités par les patriciens qui gouvernent la ville pour leur demander un avis sur comment justement on peut entretenir la lagune. Et donc progressivement, en m'intéressant à cette expertise des pêcheurs, en m'intéressant plus globalement à ce rapport à la matière de la ville, j'en suis venue à me demander justement ce qu'on faisait de ces ordures, la façon dont on gérait ces boues qui empêchent la navigation, et donc à trouver un terrain de recherche qui me permettait de travailler à la jonction des gouvernants et des habitants dans cette gestion collaborative et quotidienne de la pollution et des déchets. Au Moyen-Âge, il existe dans la ville différents points de collecte des ordures. Donc dans chaque quartier, des caisses ont été construites par différentes administrations, théoriquement entretenues, même si on a des descriptions qu'elles sont souvent dans un état assez lamentable. Et les déchets résiduels doivent être amenés dans ces caisses. Et ce sera aux balayeurs de régulièrement vider ces caisses, donc les transporter jusqu'aux bourquières qui vont pouvoir ensuite les amener en dehors de Venise. Donc ces caisses, elles servent de collecteurs, de points de collecteurs. Probablement qu'elles sont placées à des endroits qui sont les mêmes que ceux où aujourd'hui on voit encore justement les balayeurs, les netturbini arriver avec leurs charrettes et déposer dans les embarcations les poubelles qu'ils ont collectées dans leur tournée. Et on en trouve encore dans la toponymie quelques traces de ces scoasserie, donc des endroits où on allait jeter les scoasser, les déchets.
Je suis Marco Cantarello, gestionnaire opérationnel dans le centre historique pour l'entreprise Veritas, qui s'occupe de la propreté de Venise. Je fais ce métier depuis des années. J'ai d'abord été balayeur, puis pilote de barque, et aujourd'hui, j'encadre les équipes. Et je suis très content.
Martino, buongiorno.
À une période, on avait arrêté le porte-à-porte. Les habitants pouvaient simplement laisser leurs sacs poubelles devant chez eux et nous les ramassions. Mais le temps que nous fassions la tournée de toute la ville,
11:30 et quindi
les poubelles restaient parfois par terre pendant plusieurs heures.
Per tante ore per terra e arrivavano gabbiani.
Et les goélands venaient crever les sacs et éparpiller les ordures. Et ça n'était pas beau à voir.
Allora hanno deciso di fare il porta a porta.
Alors on a décidé de collecter à nouveau en porte à porte. Les déchets restent à l'intérieur des immeubles, des bars, des hôtels. L'opérateur passe pour ramasser tout ça et la ville reste propre.
E noi raccogliamo il tutto.
Être à Venise, c'est toujours avoir l'impression d'être quelque part dans le passé et en même temps être profondément ancré dans un présent. Et donc, non seulement comme historien, historienne, mais aussi comme visiteur ou comme habitant, l'exercice consiste toujours à se demander ce qui relève effectivement d'une tradition ancienne ou d'usages anciens qui ont été évidemment adoptés, qui ont été adaptés au contexte contemporain, et puis ce qui peut en fait relever de systèmes qui ont été complètement réinventés au XXe siècle ou au XXIe siècle. Donc ça, l'enquête historique, elle permet de faire ça. Mais c'est sûr que pour la collecte des déchets, pour la méthode de collecte des déchets, il y a véritablement une continuité entre ces barges contemporaines et les bourquieries du passé, qui alors avaient des formes d'ailleurs relativement similaires, hein, des barques à fond plat, relativement larges, hein, et qui permettaient justement de collecter dans certains points, et là au marché on les retrouve, les déchets, on les voit très bien en bord de Pescaria, donc juste derrière la poissonnerie actuelle, hein, et sans doute que le point de collecte au Moyen-Âge était précisément celui-là. On est à l'intérieur du marché aux poissons, enfin sous les halles, hein, du marché aux poissons actuel, hein, qui n'était pas exactement configuré de cette façon-là au Moyen-Âge. Il y avait les bouchers ici et puis les poissonniers le long du canal. Mais en effet, ça a toujours été un lieu de vente, mais aussi de préparation. Hein. C'est ici où on égorgeait les animaux au Moyen-Âge et où on les vendait. Le poisson au Moyen-Âge fait partie des aliments consommés quotidiennement par les habitants. Contrairement à ce qu'on a longtemps cru, les habitants, en particulier dans les villes riches comme Venise, mangent régulièrement de la viande et du poisson. Et donc ce lieu de vente du marché était absolument un lieu essentiel d'approvisionnement pour les habitants dans leur vie quotidienne. Donc on a énormément de réglementations qui essayent de contrôler ce qui est vendu. Déjà contrôler que les produits qui sont vendus sont des produits frais pour éviter toute forme d'épidémie, de maladie. Ces réglementations prévoient aussi la destruction de ces aliments lorsqu'ils ne sont pas propres à la consommation. Donc on explique qu'il faudra les jeter dans les canaux, ce qui est une façon de les détruire. Et ça c'est une réflexion intéressante, comment on fait pour détruire des choses dont on ne veut plus, soit par le feu, ce qui est le cas pour la viande, soit en les jetant dans les canaux. Ce qui peut paraître contradictoire vu qu'effectivement c'est une époque où on essaie à tout prix de garder les canaux les plus sains possibles et de les curer régulièrement pour éviter justement qu'ils ne se remplissent de fange. Et pourtant, on continue d'avoir ces usages mentionnés dans les documents de déchets ou en tout cas de poissons pas frais qui est jeté directement dans les canaux.
Au Moyen-Âge, les conditions de vie et d'hygiène étaient complètement différentes des nôtres. Il n'y avait pas de système de traitement des déchets ni des eaux usées.
Di smaltimento dei reflui. Le persone aprivano le finestre e buttavano la roba in strada fuori.
Les gens ouvraient la fenêtre et jetaient les ordures dehors.
È chiaro che tutto questo provocava
ce qui posait des problèmes sanitaires importants.
Molto molto elevato.
Riccardo Ceccarello, de Veritas, entreprise gestionnaire des déchets de Venise.
Et quand ils ne jetaient pas dans la rue, ils les jetaient dans les canaux. Jeter les ordures dans les canaux est une pratique qui, fort heureusement, a disparu à Venise. Mais disons que jusqu'il y a 30 ou 40 ans, il y avait encore des gens qui avaient la très mauvaise habitude de jeter les déchets dans les canaux.
L'histoire de Venise, c'est d'abord et avant tout l'histoire de cet espace écologique qu'est la lagune. C'est un écosystème très particulier, sans lequel la ville de Venise n'aurait jamais été ce qu'elle est. C'est-à-dire qu'on ne peut pas comprendre le développement de la ville, le succès de la ville, sans comprendre la façon dont les Vénitiens ont utilisé la lagune. Donc la lagune, c'est une espèce de grande zone marécageuse. Ce n'est pas une zone liquide, c'est une zone semi-liquide, une grande zone marécageuse, ça fait 550 km². C'est plus de trois fois le bassin d'Arcachon. Donc c'est un immense espace. Et en fait, dans cet immense espace, il y a une partie qui est la terre, donc là où on est maintenant, Venise, mais aussi les autres îles de la lagune, Murano, Burano, Torcello. Ça représente à peu près 10% de l'espace. Il y a 10%, c'est de l'eau, c'est-à-dire c'est des canaux de navigation. Et tout le reste, 80%, c'est en réalité une zone de marécage. Donc c'est une zone qui est parfois très peu profonde. On pourrait presque marcher dans la plupart des espaces de la lagune. Et ça, les Vénitiens le savent très tôt. C'est-à-dire qu'ils font la distinction entre les canaux dans lesquels on va naviguer et les espaces soit de marécage, soit carrément des espaces qui sont immergés ou émergés en fonction des marées. Parce que l'autre spécificité de la lagune, c'est que c'est un espace qui se remplit et se vide de l'eau de l'Adriatique toutes les 6 heures au gré des marées. Elle est construite dans un marécage qui est régulièrement nettoyé par l'eau de mer qui rentre et qui sort. Parce que la mer Adriatique étant une mer fermée, il y a effectivement des marées astronomiques toutes les 6 heures, marée haute, marée basse. Ce qui veut dire qu'il y a un premier flux qui pénètre la lagune, puis ressort de la lagune, emportant avec elle les déchets, emportant avec elle les boues, emportant avec elle tout ce que les Vénitiens produisent au jour le jour et ce qu'ils jettent dans les canaux.
La marée à Venise est
en plus d'être un élément naturel,
est
une présence permanente et inséparable de Venise. Les Vénitiens, qui ont toujours été très attentifs à la préservation de la lagune,
nel corso dei secoli sono arrivati per evitare la modifica delle maree, ad esempio, e l'interramento della laguna.
A modifier le cours de cette fleuve,
a déviare dei fiumi. Sono stati déviati
pour les faire déboucher ailleurs.
Sette fiumi facendoli sfociare in altri posti, appunto
et per evitare qu'ils ne déversent trop de sable et de déchets dans la lagune.
Troppa sabbia e troppi detriti in laguna.
Ce qui aurait provoqué son embasement.
Le pouvoir urbain, donc les magistrats qui gouvernent la ville de Venise, ont très tôt conscience de la nécessité justement de maintenir cet équilibre fragile qui est celui de la lagune. C'est-à-dire qu'il y a un premier temps qu'on pourrait dater à peu près de la fondation de Venise, donc autour du 8e siècle, jusqu'au, disons, 13e, 14e siècle, où, pour le pouvoir vénitien, le problème principal est d'assécher la lagune, c'est-à-dire d'assécher les marécages, de permettre justement à la ville de se construire. Donc pour se construire, la ville, elle s'est un peu battue, c'est la terre qui se bat contre l'eau. Il faut assécher les parties où on va construire les maisons, les églises, les palais. Dans ce moment-là, les ordures, donc les déchets, les rejets, ce dont la population ne veut plus, va être une ressource. Jusqu'au XIVe siècle, il y a très peu de déchets. On est dans une économie circulaire au Moyen-Âge. Et généralement, les déchets des uns sont les ressources des autres. On peut imaginer d'abord que ce que les plus riches rejettent va être une ressource pour les plus pauvres, y compris certains rejets alimentaires. Et puis, par exemple, les rejets artisanaux ou les rejets des maisons qu'on détruit pour en construire d'autres vont être utilisés dans le cadre de l'assèchement ou de la bonification de la lagune pour justement remblayer des parties du marécage qu'on veut construire. Donc jusqu'au XIVe siècle, on a des législations diverses sur la propreté de la ville, sur la façon dont on doit récolter les déchets solides, disons. Ce que les Vénitiens appellent les scoasse. Scoasse, ça vient de scopar, qui veut dire balayer. Donc c'est le résultat de ce qui a été balayé. Ou le ruinazzo, les ruines, c'est-à-dire les bâtiments qui sont détruits. Ça, on va les utiliser. Et puis, au cours du XIVe siècle, XIVe, XVe siècle, l'économie générale des déchets se transforme pour plusieurs raisons. D'une part parce qu'il y a globalement de plus en plus de déchets, on est dans une économie en expansion, et dans ce contexte-là, la lagune elle-même subit un nouveau tournant dans son histoire. À force d'avoir été asséchée, la lagune devient trop asséchée, il y a trop peu d'espace de navigation. Donc il y a une attention des gouvernants au régime général de l'eau, et justement ce flux qui n'est plus garanti comme c'était le cas avant. Donc il y a une attention non seulement aux déchets qui sont plus nombreux, mais aussi au fait que la lagune s'enlise, la lagune sans sable. Et ça, c'est une vraie inquiétude, parce que ce que savent très bien les gouvernants, ils le savent parce que les pêcheurs leur disent, parce que les bateliers leur disent, parce que les artisans leur disent. Si la lagune s'assèche, évidemment, elle devient irrespirable. Un air vicié vient d'une lagune qui n'est pas justement suffisamment oxygéné par l'eau ou aéré par justement ces mouvements, ces flux de l'Adriatique ou des fleuves. Cette économie générale des déchets, elle est en même temps propre à tout l'Occident médiéval. Par contre, à Venise, il y a une spécificité, c'est cette omniprésence de l'eau. Les gens jettent, et ils jettent sans doute jusqu'au XXe siècle, ils jettent leurs déchets dans l'eau. Et donc, le problème au moment où la lagune s'enlise, c'est que plus on jette de déchets dans l'eau, en particulier les déchets quotidiens, mais qui ne sont pas si nombreux, mais justement le ruinazzi, c'est-à-dire ces bâtiments qu'on détruit pour en refaire d'autres, ça c'est un vrai problème qui va saturer les eaux de la lagune et les eaux des canaux.
La nécessité de préserver la lagune dans sa dimension géographique, et donc de préserver la ville, a toujours été très présente depuis l'époque de la République sérénissime de Venise. L'eau était la force et la richesse de Venise, parce que tout se passait sur l'eau.
Ovviamente non esistevano le conoscenze sanitarie, mediche che ci sono adesso. Per cui è chiaro che nessuno pensava che.
Mais personne n'imaginait que faire ses besoins dans un seau.
Fare la cacca e la pipì in un secchio e poi buttarlo in laguna.
Et ensuite les jeter par la fenêtre pouvait poser problème.
In qualche modo nocivo per la laguna, anche perché poi.
Parce que la marée arrivait et emportait tout avec elle vers la mer.
Adesso questa cosa è molto diminuita, ma soprattutto nelle persone anziane.
Cet usage a beaucoup diminué.
Molto anziane, diciamo che.
Mais disons que, surtout chez les personnes très âgées, le souci sanitaire pour la lagune n'était pas forcément présent. Aujourd'hui, heureusement, on ne voit plus personne qui jette des choses dans les canaux.
Dans cette attention qu'il y a à la circulation dans les canaux, à la circulation dans la lagune, hein, puisque tout ça est relié, tous les canaux effectivement se déversent dans la lagune, les gouvernants vont assez tôt chercher à maintenir ces fameux canaux qui traversent la lagune, donc à les creuser régulièrement. Il y a des politiques de curage, soit des canaux internes à la lagune, soit évidemment des canaux internes à la cité. Donc on va régulièrement curer, creuser les canaux pour permettre aux innombrables embarcations de naviguer tous les jours. Parce qu'il faut bien voir qu'au Moyen-Âge, ces embarcations, elles sont utilisées constamment par les transporteurs de marchandises pour justement aller d'un endroit à un autre. La profondeur des canaux en moyenne, c'est 3-4 mètres. Le grand canal, dans certains endroits, peut être à peu près cette profondeur, 4-5 mètres. Et dans la lagune, il y a certains canaux qui sont à 2 mètres maximum. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment régulièrement, encore aujourd'hui, hein, les curer, les entretenir. Au Moyen-Âge, on a une politique régulière de nettoyage et de curage des canaux, avec une technique qui ressemble un peu à celle qu'on utilise aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on ferme les accès d'un côté et de l'autre du canal, et ensuite on pompe l'eau de façon à le vider l'eau et le canal, puis des hommes viennent avec des pelles et ramassent la boue qui est au fond du canal. Et cette boue, ils la chargent sur des barques qui ressemblent un peu aux barques sur lesquelles aujourd'hui on va décharger les marchandises ou les poubelles près de Rialto ou près de San Marco. Donc en fait, c'est des grandes barques, on les appelle bourquières, dans lesquelles on met la boue. Et justement, cette boue, au Moyen-Âge, on l'amène dans la lagune, c'est-à-dire qu'on la déverse, on la jette dans la lagune, quitte à l'utiliser pour justement remblayer ou renforcer les berges de certaines îles. Et le problème, c'est qu'au moment où la lagune est de plus en plus enlisée, ces boues-là, on ne sait plus trop quoi en faire.
Parmi les diverses choses qui envasent les canaux de notre ville et augmentent la corruption de l'air, ce qui provoque de nombreuses maladies depuis de nombreuses années, il y a les gattoli, qui sont continuellement emplis de boue et d'autres immondices. Il est donc décidé que les trésoriers de la commune devront chaque mois envoyer de l'argent, 4 lires de gros, pour payer ceux qui nettoient les gattoli. Le 11 février 1485, au Sénat.
Donc on a de nombreuses législations, non seulement sur la façon dont il faut entretenir régulièrement les canaux, c'est-à-dire les fermer, les vider, les creuser, que ce soit à l'intérieur de la ville parce que justement parfois il y a trop de cette fange qui devient irrespirable, ou alors autour de l'arsenal pour permettre aux grands navires de continuer de rentrer et de sortir de la lagune. Et puis il y a aussi des législations pour justement empêcher les Vénitiens de déverser leurs déchets organiques dans la lagune. Il y a ce qu'on appelle les gattoli. Les gattoli, c'est les sorties des gouttières, c'est-à-dire que certains Vénitiens ont, dès la fin du Moyen-Âge, des latrines à l'intérieur des palais. Ces latrines se déversent dans des conduits qui, en fait, descendent en bas des palais et puis se déversent dans les canaux. Et ces gattoli, ils ont une petite pente qui fait que, théoriquement, les matières organiques, les matières dures, se déposent dans le canal et ce qui arrive dans l'eau, ce n'est que du liquide. Et on a plein de législations au XVe et au XVIe siècle qui demandent aux Vénitiens de nettoyer leurs gattoli, de nettoyer ces égouts, voire d'enfermer certains, c'est-à-dire d'interdire, en particulier que les teinturiers déversent toutes leurs eaux sales, que certains habitants déversent leurs eaux usées. Et sans doute que les habitations les plus pauvres n'avaient pas de latrines internes, elles avaient des seaux et qu'on vidait les seaux régulièrement dans la lagune. Donc la présence de l'eau crée tout un écosystème autour de ces boues très spécifiques à Venise.
Je suis Franco Schenkel, je suis ingénieur civil édile.
Je m'appelle Franco Schenkel, je suis ingénieur civil.
Noi siamo a Cannaregio, che è un sestiere di Venezia, sul Canal Grande.
Nous sommes ici à Cannaregio, sur le Grand Canal.
E siamo in una parte delle più popolate di
Venezia. Qui est un des quartiers les plus peuplés de Venise.
Questo palazzo, come è adesso, è di poco prima del Cinquecento.
C'est un immeuble qui date de la fin du XVe siècle, que l'on voit déjà sur le plan de Jacopo de Barbari.
Che già nel 1500 era presente nella pianta del De Barbari, che non so se conoscete.
En 1500.
Che è una pianta a volo d'uccello di tutta Venezia.
Qui représentait toute Venise vue du ciel.
Un gattolo, ce n'è più d'uno.
Il y a plusieurs gattoli.
I gattoli sono queste piccole gallerie.
Ce sont ces canalisations en maçonnerie qui autrefois servaient à évacuer les eaux usées en tout genre.
Che convogliavano i reflui liquidi di qualsiasi tipo. E credo ce ne sia uno antico che scaricava in canale, nel canale della Misericordia. Che...
Il y en a un très ancien qui se déversait ici dans le canal de la Misericordia.
Adesso andiamo a vedere la fossa, quello che si vede della fossa, che deve essere sempre segreta.
On descend voir la fosse. Du moins, ce qui se voit de la fosse, car elle doit toujours rester secrète.
La fosse è qui.
La fosse est ici.
È in questo locale. Una volta era un piccolo bagno.
Dans cette petite pièce qui servait autrefois de salle d'eau.
Et abbiamo messo un coperchio abbastanza pesante perché non si sollevi con l'acqua.
On a mis un couvercle assez lourd pour qu'il ne soit pas soulevé par la marée.
È quello che succede. C'è una fossa, si chiama Muras, che ha due scomparti.
Voilà la fosse qui s'appelle Muras, qui ha due compartiments.
Un primo elemento di sedimentazione grossolana.
Un premier élément sert pour une sédimentation grossière de ce qui arrive.
Quello che arriva. e scarica in una seconda fosse.
Puis ça se déverse dans une deuxième fosse qui termine dans le canal.
Chi si occupa di svuotare la fosse quando è piena?
Et qui est-ce qui vide la fosse quand elle est pleine?
Marea va e viene.
C'est la marée qui va et vient.
Primo pezzo, quindi
elle se nettoie toute seule.
Da sola. Dopodiché ci possono essere dei momenti in cui invece tutte le deiezioni si consolidano e allora bisogna.
Il arrive dotarle. Que les déjections s'accumulent et alors il faut déboucher.
Attento, perché qui viene dentro il fango portato dalla laguna.
Attention à ne pas glisser. Parce que la boue qui vient de la lagune entre à l'intérieur.
C'è un sistema fognario generale, non c'è.
Il n'y a pas de système d'égout général.
Non è cambiato nulla da quando ero bambino. Io ho 76 anni adesso.
Rien n'a changé depuis mon enfance. J'ai 76 ans.
Beh, le maree sono comme les sorelle con le quali i veneziani.
Les marées sont comme des sœurs avec lesquelles les Vénitiens vivent depuis toujours. Elles provoquent les inondations avec l'acqua alta.
Et poi, come abbiamo visto prima, sono quelli che.
Et ce sont elles qui nettoient les gattoli.
Un po' le strade, insomma, adesso.
Et aussi un peu les rues.
Come si concilia la vita a Venezia, perché tutto a Venezia si svolge sull'acqua.
Alors comment s'organise la vie avec les marées à Venise?
I trasporti,
où tout se passe sur l'eau.
Le merci arrivano sull'acqua.
Les funérailles se passent sur l'eau.
Si muovono sull'acqua, perché insomma tutto.
Les transports passent par l'eau.
E la salvaguardia dei
canali. Les marchandises arrivent par l'eau et les gens circulent sur l'eau. Toute la vie repose sur l'eau et sur le bon état des canaux.
Periodicamente. Compatibilement,
régulièrement, quand on a de l'argent, on cure et nettoie les canaux.
I canali vengono scavati e vengono puliti.
Le 7 février 1494, archives des Sajoso. La cattiva abitudine di gettare le immondizie nei canali cittadini causa il loro interramento, richiedendo che lo scavo periodico e ordinario sia fatto ormai solo ogni 10 anni, invece dei 30 dei tempi passati. Il Senato ordina quindi ai prov di comun di assoldare 12 burchielle, 2 per ciascun sestiere, con 1 o 2 uomini ciascuna, perché provvedano alla raccolta dei rifiuti.
La mauvaise habitude de jeter les immondices dans les canaux de la ville cause leur envasement et oblige à les faire creuser périodiquement. Il faut désormais le faire tous les 10 ans, alors qu'avant c'était tous les 30 ans. Le Sénat ordonne aux provéditeurs de la commune de financer 12 barques, 2 pour chaque cestier, avec 1 ou 2 hommes chacune, pour procéder au ramassage des déchets.
Mentre che la barca non arriva qua, lavoriamo dalla parte di là.
Le temps que la barque puisse arriver jusqu'ici, nous travaillons de l'autre côté. Nous ramassons les ordures d'abord par là.
Raccogliamo prima di là. Poi magari se si abbassa, la barca riesce a passare.
Quand le niveau de la mer baissera, que la barque pourra passer sur le pont, alors nous irons déverser les ordures dessous.
Più vicino di qua, in maniera di fare meno strada.
On s'organise, on récolte d'abord par là, de façon à faire un peu moins de trajet.
Angelo Riccardi, balayeur éboueur de Venise.
Anche questo, che noi siamo dei maratonetti, sai.
Nous sommes des petits marathoniens, tu sais. On marche beaucoup.
Con il compte à pas, si vediamo dai i passi.
Avec le compteur de pas, on s'en rend compte.
Sì, alla giornata.
Superiamo 10.000.
On dépasse 10.000 pas.
70 km.
On doit faire 7-8 km par jour, parfois plus.
Deve essere arrivata di là.
Ah, la barque a dû arriver là-bas. Allons-y.
Allora, il sistema di raccolta dei rifiuti di pulizia della città.
Le système de ramassage des ordures à Venise est extrêmement ramifié.
Riccardo Seccarello.
Ogni giorno ci sono circa
Chaque jour,
250 persone che lavorano.
Il y a 250 persone che travaillent pour la propreté de la ville.
Quasi 180, 190.
Environ 180.
Che ognuno di questi ha una zona e ha un carretto per cui
190 éboueurs.
Raccoglie i rifiuti della sua zona. Ci sono circa 60 piloti delle barche.
Environ 60 pilotes de barque.
Dove poi questi carretti vengono svuotati e poi c'è una serie.
Sur lesquels les chariots à ordures sont vidés.
Manutenzione, personale della logistica. È un sistema a incastro.
C'est un système à emboîtement.
Nel senso che tutti gli ingranaggi devono girare.
Tous les engrenages doivent fonctionner parfaitement.
Il netturbino sa l'ora, ha l'appuntamento col pilota.
Le boueur connaît l'heure et le lieu auquel il a rendez-vous avec le pilote de la barque.
Se salta.
Et s'il le rate,
quell'appuntamento.
Il risque de ne pas pouvoir vider son chariot.
Il pilota deve.
Parce que le pilote ne peut pas attendre.
A raccogliere in un luogo successivo.
Car il doit aller relever les ordures d'un autre éboueur dans un autre quartier.
Entro le 11:30, al massimo mezzogiorno, tutte le rive devono essere liberate.
À 11:30,
alle 11:30 la città.
Tous les quais doivent être libérés.
Les barques partent.
Les barques remplies de déchets s'en vont jusqu'à l'extrémité de l'île de la Giudecca, sur une île artificielle qui a été créée par l'accumulation de déchets, qui s'appelle Sacca San Biagio, où se trouve notre chantier et notre station de transvasement des ordures.
Lì i rifiuti vengono presi.
Les déchets sont pris par une grue et déversés dans une barque beaucoup plus grande. Bien sûr, en faisant attention à ne pas mélanger le tri sélectif des déchets.
Quando queste grandi barche sono piene,
et lorsque ces grandes barques sont pleines,
vengono agganciate.
Elles sont accrochées à un remorqueur qui traverse la lagune jusqu'à la terre ferme à Porto Marghera.
O trasformano parte dei rifiuti.
Où se trouvent nos usines de traitement des déchets.
Oppure fanno la prima lavorazione.
Ceux qui ne sont pas recyclables sont transformés en énergie électrique et ceux du tri sélectif sont l'objet d'un premier traitement. C'est un système très complexe et tout doit être parfaitement huilé. Si une étape se passe mal, ça crée de gros problèmes.
Martino, buongiorno.
Donc là, on vient de traverser Canareggio, on est au nord de Venise. Canareggio, c'est le nom d'un des grands quartiers de Venise. Il y a 6 grands quartiers à Venise, c'est pour ça qu'on les appelle des sestiers, pas des quartiers. Et Canareggio, c'était un quartier qui s'est développé tout au long du Moyen-Âge grâce à de nombreuses activités artisanales locales, en particulier les teinturiers qui avaient leurs ateliers le long de ces longs quais qu'on appelle les fondamenti, parce que c'était un accès direct à l'eau qui permettait d'avoir des boutiques, c'est-à-dire des ateliers. Bottega en italien, c'est le nom et de la boutique et de l'atelier, c'est là où on produit et c'est là où on vend. Et donc dans ce quartier, on a beaucoup de législation au 15e, 16e siècle sur justement le rejet des eaux usées, le rejet des eaux sales, parce que les teinturiers rejettent dans les canaux les eaux teintes en rouge, en bleu, qui sont effectivement des eaux sales. Et ce qui est intéressant dans les documents, c'est qu'on trouve un mélange dans les législations, une critique de ces eaux qui sont et sales, ce que nous on appellerait la pollution aujourd'hui, mais aussi des eaux qui sont chargées, par exemple, de rejets, de matière, qui va aussi progressivement se déposer dans les canaux et empêcher la navigation, et empêcher le flux de l'eau. Donc, dans ces premières législations, En fait, le mot pollution, il est beaucoup plus tardif, le mot pollution tel qu'on l'entend nous. On ne décrit jamais véritablement la pollution au sens contemporain du terme. Ce qu'on décrit, c'est un processus qui salit l'eau et qui en même temps empêche la circulation de l'eau. Et donc ici, dans ce quartier, il y a vraiment une saturation de législation durant toute la période de la fin du Moyen-Âge et du début de l'époque moderne qui entendent justement encadrer ces usages de l'eau et ces rejets d'eau sale dans les procédés industriels. J'ai un texte de loi de la fin du 15e qui mentionne que dans le quartier de la Giudecca, donc la Giudecca qui est au sud de Venise, qui est un des autres quartiers industriels, les tanneurs jettent des pots de mauvaise qualité directement dans les canaux, et ça pose un vrai problème. Donc on voit qu'ils ont accès à des pots et à des cuirs de tellement bonne qualité grâce aux importations vénitiennes que les carcasses et les pots de moins bonne qualité viennent directement jeter dans les canaux. Et sans doute que Venise était une ville très riche avec tellement de ressources qu'un certain nombre de choses qui auraient été recyclées dans d'autres villes ne l'étaient pas à Venise. Au XVe siècle, le discours sur les déchets se transforme ou évolue ou se précise parce que les lois qui cherchent à encadrer la production, le ramassage des déchets dans la ville, mais également des boues ou des gravats, les relient souvent à des conditions particulières. Donc on peut faire référence à la lagune qui s'enlise ou qui s'ensable et donc il faut faire attention à cela. Mais il y a aussi tout un discours sur la beauté de la ville, sur le décorum. Et donc parfois, les prologues des lois qui portent sur le ramassage des déchets rappellent que la présence de ces déchets, finalement, vont à l'encontre de la beauté de la ville, vont à l'encontre de l'image de Venise. Donc il y a un discours de préservation du décorum urbain, du prestige de Venise. Il ne s'agit plus seulement de gérer un problème quotidien, un problème local, un problème urbain, mais aussi de participer d'une politique plus générale de représentation de la ville. Et au XVe siècle, Venise est une grande puissance méditerranéenne. Il faut le rappeler, hein, c'est une ville qui, alors que c'est une ville, la capitale d'un empire qui est somme toute relativement limitée en termes de territoire, mais a le pouvoir d'un grand royaume européen. Donc c'est un État qui est conscient aussi, ou en tout cas les gouvernants de cet État sont conscients de la nécessité de préserver le prestige et la force de Venise à travers l'image qu'elle donne aux visiteurs qui la traversent, des pèlerins, des princes, des ambassadeurs qui viennent régulièrement visiter la cité. Une autre chose qui m'a beaucoup surprise, c'est le fait que dans le Grand Canal et dans les canaux secondaires, tout au long du XVe siècle, on trouve mention d'énormément d'épaves. Donc d'épaves de petites embarcations, des embarcations qui servaient à la circulation, des gondoles, qui sont visiblement abandonnées au fond du canal. On pourrait penser que les propriétaires cherchent à valoriser en fait le bois qui était utilisé. Et en réalité, vu le nombre de règlements interdisant l'abandon des épaves au fond du canal, c'est une pratique commune. Et sans doute aussi parce que c'est assez délicat et difficile de les sortir de l'eau. Il faut des systèmes de grues qu'on a. Hein. On a des systèmes de levage qui existent. Mais vu la complexité et vu les coûts, très souvent, visiblement, les propriétaires de barques les abandonnent. Ce qui, là encore, va entraver la circulation des eaux, entraver la circulation des flux, et ce qui peut provoquer des points de blocage, donc la nécessité d'intervention de la part des pouvoirs publics.
Est-ce qu'il existe un service qui peut aller plonger dans les canaux pour en retirer les déchets qui les encombrent ?
On n'a pas de mention de ce type d'activité pour les époques plus anciennes. Par contre, ce qu'on voit aujourd'hui, depuis quelques années, c'est les gondoliers de Venise qui ont créé une association pour justement nettoyer les canaux, pour aller vider de choses que les Vénitiens auraient jetées, de façon volontaire ou pas d'ailleurs. Il y a des choses qui peuvent tomber au fond des canaux, des pneus en particulier qu'ils trouvent en grand nombre, qui peuvent être utilisés comme des bouées sur les pontons d'amarrage et qui sont tombés. Et donc il y a aujourd'hui un entretien du Grand Canal et des canaux secondaires.
Allora, in questo momento ci troviamo di fronte al canale grande, proprio nel centro.
Ici, nous nous trouvons face au Grand Canal.
Il canale grande è lungo 4 km, siamo proprio
4
km
de long.
E possiamo fare una panoramica.
Et nous avons une vue panoramique sur toutes les gondoles qui sont amarrées les unes à côté des autres.
Hanno finito il loro lavoro e sono tutte ormeggiate negli stazzi praticamente. Sono Stefano Vio, sono gondoliere da 41 anni.
Je m'appelle Stefano Vio, j'ai été gondolier pendant 41 ans.
Oggi, come oggi, sono in pensione.
Je suis à la retraite.
E sono il direttore dei gondolieri.
Je suis le directeur du groupe des gondoliers plongeurs bénévoles
che fa parte appunto
qui participe à la propreté de Venise.
Un progetto che si chiama Canali Puliti.
Nous menons un projet qui s'appelle Canaux Propres.
Ecco, questo è stato un gioco, più che altro, cioè proprio un gioco per noi appassionati del mare, della subacquea.
Au début, c'était un jeu pour nous qui sommes des passionnés de la mer et de plongée sous-marine.
Andiamo a vedere cosa c'è sott'acqua, perché
on s'est dit,
purtroppo il colore dell'acqua.
Allons voir un peu ce qu'il y a sous l'eau.
Non ti dà la possibilità di vedere.
Parce que, comme l'eau est verdâtre, tu n'as pas la possibilité de voir le fond de tes propres yeux.
Con il permesso e l'ordinanza del comune di Venezia abbiamo potuto fare la prima immersione.
Avec l'accord exclusif de la mairie de Venise.
E nel 19 febbraio 2019.
Nous avons pu faire la première plongée expérimentale le 19 février 2019.
Abbiamo recuperato con le nostre mani 900 kg di rifiuti.
Le résultat était positif. Nous avons pu repêcher de nos propres mains 900 kg de déchets, dont presque 190 pneus de voiture.
Lo facciamo d'inverno anche perché l'acqua è più tranquilla.
Nous plongeons en hiver parce que l'eau est un peu plus calme et plus limpide.
E non c'è un gran traffico.
Parce qu'il y a moins de trafic. En juillet août, c'est impossible de plonger vu le chaos infernal qu'il y a sur les canaux.
Terribile nei canali di imbarcazioni di tutti.
Des embarcations en tout genre, des bateaux-taxis, des livraisons, des gondoles.
Imbarcazioni privati dei veneziani.
Mais aussi les bateaux privés des Vénitiens.
Dobbiamo immergerci col morto d'acqua, sarebbe con la luna.
On doit plonger pendant les marées de mortes eaux à la demi-lune, où pendant 3 ou 4 jours l'eau est lente.
Praticamente sono 3-4 giorni dove l'acqua lei si.
Le courant est moins fort et le plongeur peut travailler tranquillement au fond des canaux.
Subacqueo può lavorare in tranquillità nel fondo.
Avec un minimum de visibilité.
C'è anche un po' di visibilità, 40 centimetri. Delle volte 30, delle volte 10.
40 centimètres, parfois 30, parfois 10. Parfois, on ne voit rien du tout.
Siamo abituati da bambini nell'alto Adriatico.
Mais nous,
a fare immersioni.
On plonge quand même parce qu'on est habitué depuis notre enfance à plonger dans l'Adriatique, en haute mer.
Ti immergi lo stesso. E così.
Nous avons appris à ne pas avoir peur de l'obscurité de l'eau et à ne pas voir ce qu'on va toucher.
Dell'acqua appunto non limpida, cioè della di non vedere quello che si va a toccare.
Parce que nous travaillons avec les mains.
Perché noi lavoriamo con le mani, a palpo, a tasto.
A tatto.
Quindi molte volte andiamo in cerca dell'oggetto, perché quando tu alzi un copertone.
Nous allons à la recherche de l'objet parce que quand tu soulèves quelque chose.
E tu devi andare avanti.
La boue est à l'intérieur, se diffuse, et tu dois avancer un peu à contre-courant. Sinon, un nuage se forme et tu ne vois plus rien.
Perché abbiamo recuperato di tutto, dai termosifoni ai ventilatori, alle biciclette.
On a vraiment récupéré de tout.
Le batterie di macchina, migliaia e migliaia di copertoni di pneumatici d'auto,
des radiateurs, des ventilateurs, des vélos, des batteries de voiture.
Di più. E poi ci sono vari oggetti, come vedete qui. Et qui sont des piccoli cimelli.
Des milliers et des milliers de jantes de pneus de voiture.
Des barques à moteur.
Des échelles, des tubes d'échafaudage. De tout.
Une chose dura, sott'acqua.
Et puis des objets, comme vous pouvez voir ici, que nous avons gardés comme une petite exposition.
Lì, vedi, c'è una macchina fotografica.
Des hélices. Une machine à laver.
Vedi, c'è anche una telecamera con le mini.
Une caméra mini DV.
Un cavallo di Murano.
Un cheval en verre de Murano.
Ci sono varie cose. Qui c'è una bottiglia di champagne ancora chiusa, vedi?
Une bouteille de champagne encore fermée.
Moët Chandon. No.
Regarde.
Esatto.
Moët et Chandon.
Poi ci sono telefoni, vecchia Romagna ancora piena, vino rosso.
Des téléphones.
Lì abbiamo
du vin rouge.
Un drone.
Un drone.
Una macchina fotografica Nikon, vedi?
Un appareil photo Nikon.
Ci sono vari telefoni.
un poisson de verre de 6 kilos. Celui-là est un objet de valeur.
Ok, che questo è una cosa di valore anche. Il trenino Lima, vari vasi, e quindi abbiamo trovato queste cose qui, le teniamo noi come ricordo, ecco. Però si trova di tutto.
Voilà, ces objets-là, on les a gardés comme souvenirs, mais on a trouvé vraiment de tout.
Con questo progetto abbiamo concluso finora dal 19 febbraio 2019, abbiamo eseguito 33 immersioni.
Depuis février 2019, nous avons effectué 33 plongées et nous avons repêché 35 tonnes de déchets de nos propres mains.
Pourriez-vous nous dire où nous sommes?
Rialto, le mercato di Rialto. Lì c'è il mercato del pesce e questo è il mercato della
frutta. Nous sommes au marché de Rialto. Là-bas, c'est le marché aux poissons et ici le marché des fruits et légumes.
À portare l'immondizia.
Je suis venu apporter mes déchets ici car c'est le seul éco-centre mobile où l'on peut apporter soi-même son tri sélectif.
Allora si può fare la carta,
papier et carton, plastique, verre et aluminium vont ensemble.
Et puis c'est le résidu.
Et puis le reste ici.
Però qui, per esempio, si può
ici, on peut aussi déposer des piles, les ampoules électriques.
Le fonti luminose, le lampadine, queste cose qui,
il y a des réceptacles.
Mi chiamo Livio Bursato.
Je m'appelle Livio Bursato.
Abito qui,
j'habite
Polo,
ici, dans le Sestier San Polo.
J'aime
profondément ma ville et je dois dire que depuis l'époque où les gens jetaient tout par la fenêtre, parce qu'on considérait que l'eau allait emporter tout ça, on a fait des progrès, des gros progrès.
Dall'evento del sacchetto,
avant l'avènement du sac poubelle,
et perciò si svuotava,
on vidait le seau des ordures au coin de la rue,
angoli, oppure addirittura
ou carrément
l'acqua.
Dans l'eau.
Poi c'è stato l'evento del sacchetto,
ensuite, il y a eu l'arrivée des sacs poubelles,
di sacchetti in giro per la città, et, poi in turbini
et on a vu
via.
Des montagnes de sacs plastiques sont assez partout dans la ville que les éboueurs ramassaient.
Dove insomma la gente pian pianino si adegua.
Puis il y a l'avènement du tri sélectif et
una volta, ecco, per esempio in acqua fino agli anni 80,
petit à petit les gens prennent les bons gestes.
Materassimo.
Jusqu'aux années 80, on voyait flotter mobili, tout et n'importe quoi sur l'eau.
Si vedevano galleggiare animali morti.
Des matelas.
Ma poi
des meubles, des animaux morts.
Queste situazioni si faceva il bagno.
Des chiens.
Si andava a nuotare, era normale.
C'était une autre époque. Et malgré ça, on allait se baigner. On allait nager. C'était normal. Aujourd'hui, il y a moins de choses qui flottent, mais finalement, l'eau est plus polluée qu'avant. Il y a des huiles, des substances acides. Quand sont arrivés les plastiques, avant qu'on fasse du tri sélectif, on voyait flotter encore plus de choses.
Des
bouteilles en plastique, mais aussi en verre.
Si, si buttava tutto in acqua, era uso normale.
Des ampoules, on jetait tout dans l'eau.
Poi con la marea portava via tutto.
C'était l'usage normal et la marée importait tout ça.
Era così. Si usava così.
C'était comme ça.
Poi ci vorrebbe un po' più di sensibilità, non solo
il faudrait
parte
un peu plus de sensibilité environnementale de la part des habitants
anche delle istituzioni,
et aussi des institutions, de la part de tout le monde.
Un po' più di appunto sensibilità per l'ambiente in generale.
Il Medioevo era
le Moyen Âge était vraiment l'ère du recyclage.
Purtroppo questa
malheureusement nous avons vraiment perdu cette pratique
così,
et aujourd'hui nous sommes submergés par les déchets.
La stiamo un po' perdendo. Adesso siamo veramente sommersi dai rifiuti. Pensate che
rien que pour la ville de Venise,
Venezia, ogni anno raccogliamo
nous récoltons 55,000 tonnes de déchets.
55,000 tonnellate di rifiuti che sono tantissime.
Ce qui est énorme.
Su questo incide molto chiaramente il turismo.
Le tourisme en représente une part très importante.
Però avremo l'esigenza di ridurre la quantità di rifiuti.
Nous avons l'obligation de réduire nos déchets.
Che sono una quantità mostruosa.
Parce que ce sont des quantités monstrueuses.
Beh, in tutta la provincia di Venezia facciamo 40
millions. Pour l'ensemble de la province de Venise, on parle de 40 millions de visiteurs par an.
Parlano di 32 milioni di turisti.
Et pour Venise,
intorno ai 30 milioni di presenze turistiche all'anno.
32 millions de touristes par an.
E gli abitanti siamo sotto i 60,000.
Tandis qu'il y a moins de 60,000 habitants.
Quindi vuol dire che la metà dei rifiuti che raccogliamo a Venezia.
La moitié des déchets de Venise est produite par le tourisme.
La plastica, gli imballaggi di
les emballages, plastique, verre et canette,
sono all'incirca il
représentent 30% des déchets annuels.
Con la plastica che raccogliamo, solo la plastica che raccogliamo.
Rien qu'avec le plastique que nous récoltons chaque année, on pourrait remplir du terrain jusqu'au dernier gradin. Deux fois le stade de San Siro.
Due volte lo stadio di San Siro. Quindi uno stadio di calcio che tiene.
C'est-à-dire deux fois un stade de foot de 90,000 spectateurs.
Spettatori potrebbe essere riempito due volte.
Rien qu'avec le plastique que l'on récolte sur ce territoire.
Fare il possibile, anche i miei colleghi con il retino recuperano però.
On fait notre possible avec mes collègues gondoliers pour ramasser même à l'épuisette. Mais tous ces déchets, c'est vraiment démesuré. On ne peut pas faire face à ce qui arrive chaque jour.
Bottiglie di plastica, di acqua,
bouteilles d'eau en plastique.
Usa e getta.
Emballage jetable pour aliments à emporter.
Et qualsiasi cosa, una confezione.
Tout est en plastique et ça fait du volume.
Fa volume, come tutto, purtroppo. Adesso invece c'è tutto uno scarto, uno spreco. E questo purtroppo ci porta.
Hélas, nous sommes submergés.
Non stiamo trovando ancora.
Tout ça est gaspillé et ça nous mènera à la ruine.
Mari, oceani.
Ces milliers de kilomètres de plastique qui arrivent dans la mer,
di plastica e di rifiuti mi fa piangere.
Ça me fait pleurer.
Perché io sono sensibile a questo.
Je suis sensible à ça.
Avec Claire Jude de la Rivière, Riccardo Ceccarello, Marco Cantarello, l'équipe des balayeurs et boueurs du Sestier Saint-Marc, Franco Schenkel, Stefano Vio, Livio Borsato. Voix Pierre Tissot, Patrice Tepasso et Angélique Cavallari. Documentation INA, Mylène Touchet. Prise de son, Florent Bujon, Romain Lenoir. Mixage, Sébastien Royer. Attaché de production, Marivonne Abolivier et Anaï Morales. Coordination, Emmanuel Laurentin. C'était Ciel mes déchets, épisode 1. Venise, ici commence la mer, ne rien jeter. Une série documentaire d'Élise Gruot, réalisée par Franck Lina. À suivre, épisode 2, bienvenue chez Homo Detritus. Merci pour le vacances.